Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Et oui, bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Vous pouvez nous écouter par tous les moyens de communication, les plus antiques comme les plus modernes. Et nous allons commencer la journée avec le docteur Michel Procureur, Debout les Français. Il a été jugé et il sera rejugé pour avoir défendu ses patients. Ensuite, nous enchaînerons avec Philippe Murer, débâcle française et catastrophe européenne. Ce sera notre grand entretien. Avant de débattre avec Pierre Noisa, l'entrepreneur au Bitcoin qui a rejoint Sarah Knafo. Et enfin, nous finirons avec Rémi Tell sur la dépossession des classes populaires, avec bien sûr les chroniques d'Alexis Poulain, Pascal Pointu, Tuc Dual-Denis, etc. Mais tout de suite, il faut dire que en 2016, le 20 février, David Cameron avait annoncé que le 23 juin 2016 serait la date du référendum qu'il avait promis sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est quelque chose de stupéfiant, on ne verra pas ça en France. Quelqu'un est élu et respecte ses promesses et quelqu'un promet un référendum et le référendum a lieu. Je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel Macron. Eh bien, de toute façon, ce n'est pas exactement d'actualité. Macron, c'est autre chose et c'est Alexandre de Galzin qui va nous en parler.
Bonjour chers auditeurs, des nouvelles de l'affaire Quentin tout d'abord. Alors que doit avoir lieu demain à 15h place Jean Jaurès à Lyon, une marche d'hommage à la mort de Quentin Derenque, lâchement tué par des antifa il y a presque une semaine. Le maire de Lyon écologiste Grégory Doucet panique, allié l'extrême gauche et aux antifa depuis plusieurs années. Il a déclaré souhaiter que la préfecture interdise le rassemblement à cause du, je cite, « risque réel de débordement violent ». Un joli prétexte, on l'accorde, d'autant qu'il s'agit bien d'une marche d'hommage, pas d'un meeting politique. En miroir, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a demandé d'afficher le portrait de Quentin sur le fronton de l'hôtel de ville, estimant que Lyon doit honorer l'un des siens et affirmer clairement son refus de la violence politique, prise de position qui l'honore. Dans le même temps, hier, le procureur de la République de Lyon a requis la mise en examen pour homicide volontaire de 7 suspects ainsi que leur mise en détention provisoire. On l'écoute.
Les interrogatoires des mises en cause, les investigations techniques, les résultats de l'autopsie de la victime et l'exploitation des vidéos conduisent le parquet à ouvrir, dans les minutes qui viennent, une information judiciaire criminelle devant les juges d'instruction et à requérir la mise en examen du chef d'homicide volontaire sur Quentin Derenque pour les 7 personnes présentées. En outre, il sera également demandé leur mise en examen pour violence aggravée par 3 circonstances aggravantes avec ITT inférieure à 8 jours et association de malfaiteurs en vue de la commission d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans.
Voilà, parmi ces suspects, notons que 3 étaient déjà connus de la justice pour violence en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, pour violence et usage de stupes, et pour vol et port d'armes. De petits anges à n'en pas douter, et cela sans parler de leur réputation plus que sulfureuse.
Et quelques rapides nouvelles de l'affaire Epstein.
Oui, arrêté hier matin, il a été relâché hier soir. L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a passé 12 heures en garde à vue pour manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle, soit directement l'affaire Epstein. J'ai appris avec la plus profonde inquiétude la nouvelle concernant Andrew Mountbatten-Windsor et les soupçons d'abus dans l'exercice d'une fonction officielle, a réagi le roi d'Angleterre, affirmant que la justice devait suivre son cours.
Et Emmanuel Macron invente des tensions diplomatiques pour rien.
Avant-hier, de nombreux Français se réjouissaient du message de solidarité posté par Giorgia Meloni après la mort de Quentin. La présidente du Conseil italien déplorait notamment une blessure pour toute l'Europe, dénonçait un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays et exprimait sa solidarité et sa stupeur face à la violence politique ayant mené à ce drame. Certes, elle y dénonce l'extrémisme de gauche, mais enfin, le ton est assez convenu. Mais au lieu de la remercier poliment de ce message assez apolitique et somme toute aimable, voire même de ne rien dire, Emmanuel Macron s'est énervé, de façon, il faut le dire, assez ridicule, demandant à Giorgia Meloni d'arrêter, je cite, de commenter ce qui se passe chez les autres, ajoutant, je cite à nouveau, que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Décidément, la politesse et lui, ça fait deux. En retour, l'entourage de Giorgia Meloni s'est dit choqué et surpris de cette grossière provocation. Emmanuel Macron déclarait ces derniers jours que, quand il avait trop confiance en lui, il avait fait de grosses erreurs. On confirme. Peut-être faudrait-il maintenant passer à la vitesse supérieure et éviter les crises diplomatiques pour rien maintenant.
Un petit mot sur l'euthanasie.
Oui, la loi sur la fin de vie poursuit son chemin et promet d'avoir que peu de garde-fous. La création d'un droit à l'aide à mourir a de nouveau été approuvée par l'Assemblée ce jeudi 19 février. Dans le cadre de l'examen en deuxième lecture de la proposition de loi du député Olivier Falorni, petit point de doute cependant, l'adoption à une voix près d'un amendement autorisant les demandeurs d'aide à mourir à demander à un soignant de leur injecter la substance létale pourrait bien rebuter un certain nombre de députés sur le texte final, mais si ce dernier passe, on aura lieu de particulièrement s'inquiéter.
Et pour ce qui est du sport ?
Eh bien hier, toujours au JO d'hiver de Milano Cortina, Émilie Harop a emporté l'argent. Et Thibaut Anselmet, le bronze pour la France en ski alpinisme. Une très belle prouesse qui fait chaud au cœur. La France se range désormais à la 4e place après le passage de plusieurs disciplines qu'elle affectionne tout particulièrement. Soyons audacieux et rêvons d'un podium.
Et quel temps qu'il fait ?
Eh bien, le temps est plutôt calme aujourd'hui sur le pays. Beau soleil dans le golfe du Lion, enfin dans le sud en général. Côté température, on aura ce matin 4 degrés à Lille, 6 à Chartres, 6 à Paris et 9 à Cherbourg. Dans l'après-midi, les maximales seront de 6 degrés sur le Grand Est, 11 en Normandie, jusqu'à 17 au niveau du golfe du Lion. Et nous célébrons ce 20 février la bienheureuse Aimée et Saint-Eucher. Alors Saint-Eucher, sénateur de la Narbonnaise au 5e siècle, sénateur romain, hein, il abandonne sa femme enceinte et ses filles pour entrer dans un monastère pélagiste, donc hérétique. Et après, il retrouve sa famille, il devient évêque de Lyon, enfin un brave type.
Ben, surtout quelqu'un qui a choisi la vérité. Merci Alexandre de Gazan.
Ligne droite.
Mais on ne se quitte pas, car vous nous faites aussi le décryptage.
Oui, tout à fait. Alors hier soir, on pouvait entendre sur le plateau de BFM TV un débat réunissant 4 candidats. Parce que si l'actualité est bien sûr chargée, les élections n'en sont pas pour autant repoussées, les campagnes municipales battent leur plein dans toute la France, et plus particulièrement à Marseille, où depuis quelques semaines un renversement spectaculaire peut se jouer. Marseille, dans l'imaginaire populaire de beaucoup, c'est une ville ma foi fort belle, mais politiquement gangrénée par ses quartiers nord, ancienne circonscription de ses Jean-Luc Mélenchon, désormais place forte de Manuel Bompard et de Sébastien Delogu. Le maire est un socialiste, Benoît Payan, et le sénateur de droite nationale Stéphane Ravier est connu et apprécié de son camp, il fait un peu figure de résistant dans ce paysage. Pourtant, depuis quelques temps, une petite musique commence à monter. Elle raconte non pas l'histoire d'une résistance, d'un barreau d'honneur, mais d'une conquête. Le candidat du Rassemblement National, Franck Alizio, serait d'ailleurs le compositeur de cette musique. Sur le terrain comme dans les sondages, il s'impose de façon surprenante comme un potentiel prochain maire de Marseille, à la stupéfaction de tous. Depuis le ralliement de Stéphane Ravier et la réforme du vote municipal dans les grandes métropoles, la voie s'est en effet tracée. Franck Alizio dépasse les 30% au premier tour dans les sondages, où il talonne l'actuel maire, tout comme au second tour d'ailleurs. Selon les derniers pronostics, la bataille pourrait se jouer à quelques milliers, voire quelques centaines de voix près. Il faut dire que le député RN a plusieurs avantages de son côté, à commencer par le mauvais bilan de Benoît Payan sur le narcotrafic, l'insécurité ou la propreté. Mais au-delà de ça, il y a ces ralliements du Modem à Reconquête et cette vague nationale qui pousse en avant le parti de Jordan Bardella et fait reculer celui de sa concurrente, la LR Martine Vassal, qui s'est alliée aux macronistes et qui disait d'ailleurs hier que ses valeurs étaient le mérite, le travail, la famille, la patrie.
Ça rappelle quelque chose.
Voilà, exactement. Franck Alizio ne fait pas campagne, pas une campagne coup de poing. D'ailleurs, ses détracteurs lui reprochent son manque d'énergie ou sa faible notoriété qui ne joue pas précisément en sa faveur. De même, de sérieux handicaps comme la possibilité d'une alliance LFIPS entre Delogu et Payan au second tour contre un possible maintien de Martine Vassal face à Franck Alizio pourrait bien doucher les espoirs du camp national. Mais pour le moment, la dynamique va bien dans un sens, celui de Franck Alizio. Peut-être que dans un mois, peut-être qu'un jour, la deuxième ville de France basculera dans l'escarcelle du RN. A défaut, Éric Ciotti, candidat de l'UDR à Nice, pourrait bien lui aussi jouer un excellent lot de consolation. Les derniers sondages le donnent victorieux face à son adversaire Christian Estrosi.
Merci Alexandre.
Ligne droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Michel Procureur. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Ligne droite, bonjour aux auditeurs.
Vous avez, pendant la période du Covid, exercé sans être vacciné pendant 7 mois, si je ne m'abuse. Vous avez délivré de faux certificats de vaccination, selon la manière dont on vous accuse. Et pour ce faire, en 2023, vous avez été suspendu par l'ordre des médecins, interdit d'exercer pendant 3 ans. Et par ailleurs, une procédure au pénal a été engagée avec des choses un peu surprenantes, comme par exemple le fait que vous ayez prescrit des prothèses auditives à vos patients qui en avaient besoin pendant que vous n'étiez pas vacciné, vous vaut la demande de remboursement des prothèses par la Sécurité sociale. On ne comprend pas exactement quel est le cheminement intellectuel qui consiste à dire que le fait qu'un médecin qui ne soit pas vacciné proposant de soigner des malades qui sont vraiment malades avec des examens qui sont vraiment nécessaires, comme les scans que vous avez fait passer à des cancéreux, ou ces prothèses auditives évidemment nécessaires à ceux qui sont sourds, aboutirait au fait qu'on lui demande de les rembourser. Vous avez été auditionné par l'ordre des médecins le 17 février, vous serez jugé au pénal le 9 mars 2026. Où en est votre parcours judiciaire à la fois vis-à-vis de l'ordre et vis-à-vis de la justice française ?
Ben oui, ben écoutez, vous avez très bien résumé la situation. J'ai fait appel de ma condamnation de 3 ans d'interdiction d'activité. Je suis passé en appel à la chambre disciplinaire de l'ordre national de l'Ordre des médecins à Paris. Et pour la petite histoire, je vais introduire notre débat par ce que j'ai pu lire sur les murs de la salle d'audience de cette salle. Donc, on pouvait lire, gravé sur les murs de cette salle, « J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. » Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lire sur les murs de cette salle d'audience. Et donc, j'étais face à des confrères, à des médecins, à un juge du Conseil d'État. Mon avocat m'accompagnait. Et sa plaidoirie a été, je pense, très convaincante. Il a introduit les choses par un rappel d'Antigone de Sophocle, qui est une tragédie grecque, hein, dont j'invite tous les auditeurs à revoir l'histoire de cette tragédie. Et ensuite, il a argumenté qu'effectivement, on ne pouvait pas avoir de consentement libre et éclairé par une information complète et loyale vis-à-vis des patients, puisque la firme elle-même, pour ne pas la nommer Pfizer, vient de révéler enfin que par ses contrats, elle n'avait jamais testé l'efficacité de son produit, que la transmission n'avait pas été testée non plus, qu'elle exigeait des clauses d'irresponsabilité des effets secondaires, des causes de non-traçabilité des lots. Donc on peut vraiment se poser des questions. Il connaissait des tas d'effets secondaires qui n'ont pas été annoncés, qui ne devaient être révélés que dans 75 ans, mais grâce à des actions juridiques aux États-Unis, et comme celle de Marc Doyer, qui a perdu sa femme Morissette d'un Creutzfeldt-Jakob fulminant après injection, il a pu mettre la main sur ces contrats qui ont révélé ces clauses complètement étonnantes. Moi, de mon côté, je n'ai fait qu'énoncer ce que j'ai constaté lors de mon activité pendant le Covid, c'est-à-dire la mort d'Anthony Rio, qui est cet étudiant de 6e année de médecine, qui avait 24 ans, qui avait reçu qu'une seule dose d'AstraZeneca et qui est mort de thrombose dans tous les organes. Et ça remonte au 18 mars 2021, soit 10 jours après son injection. J'ai parlé d'Élodie Magne, qui est une jeune femme de 21 ans qui est morte d'une thrombose de la carotide, de Sofia Benarira, qui avait 17 ans, qui est décédée à Gardanne, d'Eva Musso, qui avait 30 ans, qui est décédée à Gardanne, de Maxime Beltra, qui était dans le Sud, qui avait 19 ans, qui est mort d'une tamponade cardiaque après péricardite. J'ai parlé également de Ludovic Claire, qui avait une trentaine d'années, qui avait 35 ans, qui est mort après ses injections également. Enfin, la liste est vraiment interminable. Et maintenant, j'ai cité également des articles revus par les pairs Donc, c'est-à-dire que ce sont des articles scientifiques qui sont publiés et dont le sérieux du scientifique est tout à fait avéré par un consensus de scientifiques qui les lisent et qui les relisent et qui permettent leur publication. Donc, on retrouve dans ces articles scientifiques que des métastases de cancer du sein sont actuellement bourrées d'ARN messager et de spike, comme des artères cérébrales de gens qui sont morts après AVC, après injection. On retrouve également ces produits comme de la spike et de l'ARN messager, 3 ans et demi après même les injections maintenant. Mais voilà.
Docteur, effectivement, il y a ce débat scientifique qui a été enfin ouvert et la communauté scientifique, peu à peu, laisse passer une série d'articles sur lesquels, en tant que journaliste, évidemment, je n'ai aucun avis éclairé médical, mais comme vous l'avez souligné, ce sont des revues médicales établies qui laissent passer des articles revus par des scientifiques qui expliquent qu'effectivement, on peut considérer qu'il y a des effets secondaires nocifs, chose qui, à l'époque, avait l'air d'être totalement interdite. Vous avez prononcé ce plaidoyer avec votre avocat, vous avez été interrogé par l'ordre des médecins. Est-ce que la décision, puisqu'il s'agissait de faire appel de votre suspension, est-ce que la décision a été rendue le 17 février ou est-ce que la décision est rendue à plus tard ?
Non, la décision leur appartient encore. Elle ne viendra que dans deux, trois mois, donc sans doute après mon procès pénal dont vous avez parlé le 9 mars à La Roche-sur-Yon.
Voilà. Alors, ce procès pénal, c'est autre chose. Vous avez cité tout à l'heure Marc Doyer. Je tiens à dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que je recevrai Marc Doyer dans Restons Courtois mardi prochain à 17h30. On a maintenant le volet légal. Là, vous êtes jugé par vos pairs et on sait à quel point l'ordre des médecins s'est toujours illustré dans une certaine complaisance vis-à-vis du pouvoir. On a aussi une certaine complaisance vis-à-vis de d'autres crimes comme la pédophilie d'une manière assez surprenante, l'ordre des médecins est très pointilleux sur un certain nombre de choses, mais assez laxiste sur d'autres, mais ça nous entraîne un peu loin. Le 9 mars, vous êtes jugé parce que, en fait, on considère que avoir exercé la médecine sans être vacciné, avoir délivré des faux certificats, est quelque chose de particulièrement préjudiciable. Comment l'État français vous attaque-t-il ? Qu'est-ce qu'il vous reproche exactement ?
Comme vous l'avez résumé dans l'introduction, il trouve un moyen de me punir par le fait effectivement que je n'étais pas vacciné. Je l'ai reconnu, j'ai été dénoncé par un pharmacien. Il y a une enquête de police
bon
qui a
français.
Été menée. Enfin bon, on ne revient pas à cet épisode-là. Donc j'ai effectivement dit que comme il fallait se faire vacciner tous les 3 mois et en plus rester assis dans les restaurants pour ne pas être contaminé, je ne voulais pas de ces produits pour ma fille qui devait se faire vacciner et pour mes enfants et pour mes patients, bien sûr, qui perdaient leur boulot, qui subissaient une contrainte énorme et qui étaient soumis à une détresse humaine à laquelle j'ai fait face et à laquelle j'ai répondu comme j'ai pu, puisque nous, on est payés pour garder nos patients et nos enfants, a fortiori, en bonne santé. Moi, j'ai refusé cette injection. On était obligé. La France est un des rares pays où l'obligation vaccinale était de mise pour les soignants. J'étais formé en Belgique. Jamais la Belgique n'a réclamé cette obligation. Donc, ça ne me serait pas arrivé si j'étais tout simplement resté dans le pays où j'ai fait mes études. Mais bon, j'étais face à cette obligation et à ces constatations catastrophiques. C'était réellement, je vous dis, entre les pathologies de Maurice Doyer dont on parle comme sa maladie à prion, son Creutzfeldt-Jakob qui l'a emporté en trois semaines, et puis les myocardites, les péricardites, les maladies neurodégénératives comme celles que collectionne Mathieu Dubois dans son collectif de la victime, il en a presque une cinquantaine. Moi, j'en avais vu pendant 35 ans, j'en avais vu deux, et c'était des patients qui étaient âgés de plus de 80 ans. Donc ici, ce sont des gens qui ont 35 à 50 ans, et dont l'une, Mélanie Maupas, dont le papa viendra certainement témoigner à mon, à mon procès, a demandé une euthanasie. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années également et qui est en train de mourir au bout de plusieurs mois d'évolution de cette maladie neurodégénérative qui restait une maladie rare et qui est une maladie qui est maintenant réellement, littéralement, en explosion. Hein, donc, ces maladies neurodégénératives et puis tous ces problèmes de ménométrorragie, de saignement énorme chez des patientes qui ont été vaccinées. Là, je fais référence à Mélodie Ferron, qui a témoigné devant le Sénat en mai 2022, en même temps qu'Amine Numlil témoignait pour des enfants devenus aveugles après ces injections. Mélodie Ferron témoignait, elle, de dizaines de milliers. Je pense qu'elle est à autour de 15 à 17 000 femmes maintenant qui présentent des problèmes, comme des jeunes filles de 15 ans qui ne sont plus réglées et qui sont en ménopause précoce, et de femmes de plus de 80 ans qui recommencent à avoir des règles et qu'on doit hystérectomiser tellement elles saignent. Donc on a vraiment de quoi se poser des questions face à ces injections. Et je pense que d'autres pays ont remis en cause ces injections bien plus rapidement que nous, en France, je veux dire. On reste de nouveau la lanterne rouge des pays qui remettent en cause ces injections.
Alors, et l'État donc décide non pas de vous attaquer sur l'analyse médicale que vous faites, le discours, le regard critique au sens doute méthodique et scientifique que vous portez sur ces vaccinations obligatoires et leurs effets. Non, il vous attaque parce que n'ayant pas été vacciné, il serait nécessaire, c'est la sécurité sociale notamment qui vous attaque, que l'ensemble des actes médicaux que vous avez prescrit soit remboursé par vos soins, oui, à la sécurité sociale. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement surpris. Vous aviez un patient cancéreux, vous avez prescrit un scan ou une IRM, je ne sais plus, et donc la sécurité sociale, sous prétexte que vous n'étiez pas vacciné, demande le remboursement de cet examen, sans remettre en cause d'ailleurs la nécessité de cet examen. On ne comprend pas le cheminement intellectuel.
Oui, ben écoutez, moi je verrai le 9 mars comment il y aura certainement des représentants. J'espère qu'ils auront le courage de venir faire face à cette confrontation. Et ils me réclament effectivement des actes pour lesquels moi je n'ai pas perçu le moindre centime d'euro. Hein, donc moi j'ai fourni mes avis d'imposition qui montrent bien qu'en 2022 j'ai dégagé 12 370 euros sur toute l'année, alors que j'ai travaillé 4 mois. Il faut savoir qu'un médecin comme moi, comme spécialiste, on prescrit des scanners, on prescrit effectivement des antibiotiques ou des appareils auditifs, comme dans ma spécialité. Et cet appareil, il vaut peut-être 2 000-3 000 euros, et il est remboursé 600 euros au patient par la sécurité, par la Sécu. Mais je n'avais pas le droit de travailler ni de prescrire cet appareil auditif, donc c'est à moi à le rembourser. Donc vous imaginez que sur 7 mois, moi je prescris peut-être tous les jours 5, voire 8 scanners, voire plus, pour des patients. Ce sont des actes qui sont remboursés peut-être 100-150 euros. Mais donc ça, fois tous les jours, fois 7 mois, ben ça fait 250 000 euros à rembourser. En plus, la procureure réclame également une amende de 50 000 euros et un an de prison avec sursis. Voilà la situation d'un médecin qui pour moi, n'a rempli que son devoir de protection de mes patients. Et je vous le répète, je suis tout à fait confiant dans l'ordre des médecins, puisqu'on peut lire sur les murs j'en bégaye un peu, mais donc j'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire sur les murs de la salle d'audience du Conseil de l'Ordre national des médecins. Et j'espère qu'ils s'inspireront de ces belles paroles pour se souvenir que j'étais exactement dans ce cas de conscience.
Eh bien, espérons effectivement que ce qui était écrit sur les murs sera gravé dans leur cœur au moment où ils rendront leur jugement. Merci beaucoup, docteur Michel Procureur. Et forcément, nous vous réinterrogerons au moment où les sentences tomberont.
Voilà, merci de votre écoute.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Il est 7h24 et même 7h25. Merci beaucoup d'être avec nous. À 8h10, il y aura la chronique d'Alexis Poulain qui se confrontera à Philippe Murer, que je reçois tout de suite, pour parler de la France et de l'Europe dans le grand entretien.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Bonjour Philippe Murer.
Bonjour Richard de Seize et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, je rappelle que vous êtes le cofondateur du mouvement politique citoyen qui a entamé il y a plusieurs mois une grande réflexion politique qui a abouti à la présentation et à l'édition d'un programme collaboratif qui couvre l'ensemble des sujets qu'un bon président de la République aurait à aborder. Mais si je vous reçois aujourd'hui, c'est plutôt pour faire un tour de l'actualité qui nous emmènera de la France à l'Europe et ensuite nous reviendrons à la France. Et évidemment, même si ce n'est pas immédiatement dans un programme, ce qui est surprenant, c'est la mort de Quentin. Ce qui est désolant, c'est la mort de Quentin. Et ce qui est carrément affligeant, ce sont les réactions des partis politiques, de gauche comme du centre.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça a été un événement qui a été très sensible, quoi, qui a été très dur. Nous en avons parlé sur le thème du soutien à la famille de Quentin. Mais maintenant, je pense qu'il est temps d'en tirer des conclusions politiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine depuis le meurtre politique de ce gamin à Lyon? La première chose, c'est qu'il n'y a aucun regret des Antifa. La violence, c'est leur mode d'action et ça le restera. Peut-être que vous avez vu, Richard de Seize, que Vincent Lapierre, le journaliste indépendant, est allé faire un reportage à Lyon et parler avec différents acteurs pour comprendre ce qui s'était passé. Et qu'il a été attaqué au mortier. Un journaliste attaqué au mortier par une organisation politique. C'est quand même incroyable. Et il a été obligé de s'enfuir. On a vu un militant antifa qui a dit qu'il était pour la mort de Quentin sur les réseaux sociaux, des vidéos. Et Jean-Philippe Tanguy a eu raison de porter plainte contre lui. Il y a beaucoup d'autres éléments qui ont montré que les antifas n'ont aucun remords et qu'ils continuent. Le deuxième élément, c'est qu'on n'a pas découvert, mais là, il y a une certitude, c'est que c'est une stratégie assumée de Mélenchon de s'allier à cette organisation, la Jeune Garde, qui est une organisation fasciste. C'est une organisation fasciste parce qu'elle ne veut pas travailler en politique sur le débat d'idées, elle veut imposer ses idées par la terreur et la violence. Donc, Mélenchon soutenait la Jeune Garde avant qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait ce problème-là. Il soutenait la Jeune Garde, il soutenait Raphaël Arnaud même, pour faire entrer le loup dans la bergerie de l'Assemblée nationale. Raphaël Arnaud, quand Jean-Luc Mélenchon le soutenait pour son élection à Avignon, législative, en 2024, il avait déjà été condamné à de la prison, à 4 mois de prison avec sursis pour violence volontaire en réunion, violence politique. Donc Mélenchon le savait. Et on a remarqué tous qu'après ces actions terribles de la Jeune Garde, cette violence qui a été révélée à tous les Français, eh bien Mélenchon a poursuivi en disant qu'il soutenait la Jeune Garde. Donc, c'est extrêmement dangereux. Mélenchon continue encore et toujours à soutenir cette organisation fasciste.
Donc, qu'est-ce qu'on peut une organisation, je me permets de le signaler, en théorie dissoute, mais qui en fait s'est quasiment reconstituée avec un comité de soutien à la Jeune Garde pour contester la dissolution, et ce qui fait que les mêmes personnes continuent à partager non seulement les mêmes convictions, mais les mêmes réseaux, les mêmes actions. Autrement dit, il y a une reconstitution de Ligue dissoute, sans que d'ailleurs l'État, jusqu'à maintenant, ne semble s'en émouvoir.
Vous avez tout à fait raison, puisque l'État a demandé, le ministre de l'Intérieur a demandé sa dissolution, je crois que c'était Retailleau en juin 2025, mais si je ne me trompe pas, elle n'a pas été encore officiellement dissoute. En fait, il y a un temps juridique qui est extrêmement long pour cette organisation. Je crois qu'elle n'est pas encore officiellement dissoute. Donc, le premier point politique sur lequel on peut conclure, c'est que Mélenchon et LFI sont associés à une organisation avec un comportement fasciste. On a là un énorme problème. Un ministère de l'Intérieur qui soit sérieux devrait démanteler complètement ces organisations proto-fascistes et demander une fermeté absolue de la police et de la justice envers tous les antifas, les black blocs, tous ceux qui entraînent la politique dans la violence. Mais il devrait aussi imposer à LFI de se dissocier de ces organisations fascistes, parce que LFI, c'est un parti politique important à l'échelle de la France et de se dissocier sous peine de risquer la dissolution aussi. Le deal doit être clairement mis entre les mains de Mélenchon. Ne pas le faire, c'est cautionner la violence en politique des méthodes fascistes et les nourrir par l'argent public, qui plus est. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Soyons clairs, ça peut aboutir au chaos, même si LFI restera minoritaire. Et ça, c'est le deuxième point très important. Beaucoup de gens ont très peur de Mélenchon et de LFI, mais ce qu'il faut bien comprendre, ils sont grillés politiquement. Ils l'étaient avant cette affaire, parce qu'ils perdent sur le terrain des idées, notamment sur le terrain des flux d'immigration, et les Français ne veulent pas d'extrémistes et de violents au pouvoir. Donc, LFI était grillé politiquement, ils le sont encore beaucoup plus après cette affaire Quentin. Donc, ils ne vont pas faire des scores extraordinaires pour la présidentielle. Il y a une toute petite chance encore qu'ils arrivent, si le score de qualification est très bas, qu'ils arrivent au deuxième tour. La chance est relativement faible, mais elle existe. Mais il faut bien comprendre que Marine Le Pen ou Bardella, dans tous les sondages depuis un ou deux ans, gagnerait à 60% contre 40% LFI. Donc LFI restera minoritaire et cramé. Deuxième point important, il y a eu un sondage au Doxa qui a été fait hier et qui dit que seulement 11% des Français pensent que LFI a eu la bonne action, a réagi comme il fallait avec la mort de Quentin. 57% qui sont trop complaisants. Donc on voit que les Français sont vent debout contre LFI et ça va très loin puisque pour les municipales, les Français sont prêts à faire barrage contre LFI, hein, et surtout même au PS, au Parti Socialiste de gauche, hein, les socio-traîtres de gauche, 45% sont prêts à faire barrage contre LFI. Donc LFI, il n'est pas un danger sur le terrain politique, il restera toujours minoritaire, mais il est un danger parce qu'il essaye de faire passer la politique du côté de la violence, du débat des idées à la violence et la terreur. C'est pour ça qu'il faut l'arrêter, et vite. Le troisième point important, c'est que Mélenchon, en fait, c'est un soutien du mondialisme et de l'européisme de l'Union européenne. Et à la fin des fins, Mélenchon, il dit toujours qu'il faut voter pour Macron. Vous vous rappelez, en 2017-2022, c'était pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour le Rassemblement national. Rappelons qu'aux législatives 2024, les macronistes d'extrême-centre qui sont vent debout contre LFI, à ce moment-là, s'alliaient dans un front républicain tous contre le RN. Ce qui faisait qu'il y avait des désistements de candidats LFI pour les macronistes au deuxième tour et des désistements de candidats macronistes pour faire élire des LFI au deuxième tour. Donc, et ça serait la même chose, de toute manière, à toute élection présidentielle, Mélenchon, au deuxième tour, appellera à voter Macron ou pour l'extrême-centre. C'est un mondialiste, un européiste.
Et inversement d'ailleurs, parce que là, et on a déjà vu d'ailleurs des membres de la Macronie, y compris dans les postes gouvernementaux, continuer à expliquer qu'ils soutiendraient, il y a quelques jours encore, qu'ils soutiendraient LFI contre le RN au moment des prochaines élections.
Tout à fait d'accord. Donc le quatrième point, c'est que c'est un point qu'on a moins abordé, mais les Antifa et les Black Blocs, ils pourrissent toutes les manifestations que peuvent faire les Français, toutes les revendications sociales. Et donc, les macronistes sont absolument ravis de l'action des Antifa. Ils se sont servis depuis des années de toutes les violences dans les manifestations que font les Antifa et les Black Blocs pour les délégitimer et délégitimer les demandes des Français. Donc, ce sont des idiots utiles que protègent les macronistes et qui protègent les macronistes, hein. On rappelle que le grand criminologue Xavier Hofer, que vous recevez de temps en temps sur cette antenne, mais d'autres disent la même chose, a toujours dit que la police connaît tous les Black Blocs, tous les Antifa, et qu'ils sont capables soit de les arrêter au domicile s'ils ont commis des actes de violence, soit de les empêcher de manifester en leur disant qu'il faut pointer au commissariat parce qu'à chaque fois, ils font de la violence contre la police dans les manifestations. Donc il y a une volonté claire du gouvernement de laisser tranquille les Antifa, les Black Blocs, pour contrer toute revendication légitime des Français. Et le cinquième et dernier point que je voulais dire au niveau politique, c'est que les luttes horizontales entre les Antifa et les identitaires, je ne critique personne, hein, je dis que les macronistes et le système adorent ça. Pourquoi ? Parce que si les auteurs des violences, ils sont clairement à chercher du côté des Antifa et pas du côté des identitaires. En fait, ça permet aux partis des systèmes de faire semblant d'être des gens raisonnables en politique qui se battent contre l'extrémisme et la violence aux politiques. Et pendant ce temps, les macronistes détruisent tranquillement la France, bâillonnent notre liberté d'expression, ce qui n'est pas rien, sur les réseaux sociaux, et essayent de transformer la France en une province de l'Union européenne, avec le grand saut dans l'Europe fédérale, qui ferait que la France serait une pauvre chose sans aucun pouvoir. Donc ces luttes horizontales, le problème et l'inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils masquent aux Français tous les vrais problèmes qui sont et les vrais enjeux qui sont de sortir de l'Union européenne, de sortir du mondialisme et de dégager toute la caste qui détruit notre pays.
Alors,
parce que le but, je finis juste deux secondes, le but c'est quand même de pouvoir régler toutes les crises graves qui sévissent dans notre pays, que ce soit les flux d'immigration sans fin, mais aussi tous les problèmes économiques, sociaux, en matière d'éducation, etc. Or, ces luttes horizontales, en fait, sont une mauvaise chose pour les Français parce que c'est un piège tendu par les organisations extrémistes Antifa, Black Blocs et les macronistes. Il faut absolument refaire de la politique et ne pas se contenter des luttes horizontales et dire comment on résout, par exemple, le problème des flux d'immigration en France. Et ça, ça passe par une sortie de l'Union européenne, du droit européen et de retrouver des frontières pour notre pays.
Alors, je suis absolument d'accord avec vous, bien sûr, vous êtes sur Radio Courtoisie. Je voudrais qu'on revienne sur un des autres mondialistes européistes en chef, Emmanuel Macron, qui s'est particulièrement illustré ces derniers jours, d'une part évidemment en expliquant à quel point la mort de Quentin était odieuse, mais en ayant déclaré peu de temps auparavant que le RN et LFI étaient vraisemblablement des antisémites, en même temps qu'Aurore Berger est en train de préparer une nouvelle loi pour redéfinir l'antisémitisme et qu'Emmanuel Macron explique qu'il serait bon que tous ceux qui soient suspects de cet antisémitisme revu et corrigé par Aurore Berger, dont on connaît les accointances avec les ONG de gauche, devraient permettre d'éliminer du jeu démocratique tous les partis et toutes les personnes suspectes d'être antisémites. Donc on sent là aussi qu'il y a une véritable attaque dirigée contre tous ceux qui sont capables de ne pas avoir exactement la parole qu'Emmanuel Macron entend avoir sur n'importe quel sujet. Sur la mort de Quentin, évidemment, les Italiens, et d'ailleurs les Allemands, et d'une manière générale, tous les pays en Europe ont été absolument effrayés de cette violence. Alors, sachant qu'il y avait d'autres raisons d'être effrayés par la violence Antifa, rappelons que en Hongrie, en ce moment, est jugé un militant qui a défoncé en Hongrie le crâne de quelqu'un qu'il considérait comme étant nazi, juste parce que il n'était pas en faveur de la transidentité. Il lui a défoncé le crâne à coups de marteau, et qu'en France, et il y a l'un de ses complices qui, pour le moment, n'est pas extradé, car la France considère que la Hongrie n'est pas un État où on serait jugé paisiblement et qu'il vaut mieux garder quelqu'un qui est responsable d'une tentative d'assassinat pour éviter qu'il soit jugé par un pays illibéral. Voici l'état de la justice en France. Longue digression pour en arriver à ce point. Giorgia Meloni a expliqué évidemment qu'elle était émue par ce qui est arrivé à Quentin, d'autant plus émue que Raphaël Arnaud vient de temps en temps faire des tournées de touristes antifascistes en Italie, autrement dit qu'il est à proximité des désordres que les antifascistes, qui sont de véritables internationales, commettent en Italie. Et Emmanuel Macron lui a expliqué qu'elle ferait mieux d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres, ce qui est quand même assez croquignolé, puisque Emmanuel Macron passe sa vie à commenter ce qui se passe chez les autres.
Vous avez tout à fait raison, là, tout à fait raison. En fait, Macron passe son temps à critiquer Trump, à bénir Zelensky, à critiquer Poutine. Il n'a pas de son temps à faire ça, et il critique Meloni pour avoir dit des choses évidentes et sympathiques aux Français. Elle a dit « Nous sommes solidaires, nous, Italiens ». En fait, je lis, hein, parce que je l'ai noté pour… Moi, ce message ne m'a pas choqué du tout. Elle met à la fin, donc elle regrette la mort de ce jeune homme, elle trouve ça triste, elle dit à la fin « Aucune idée politique, aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence qui transformait la confrontation en agression physique ». Écoutez, tout le monde est d'accord avec ça.
C'est presque du Macron dans le texte.
Il n'y a rien de dirigé contre la France, c'est plutôt sympathique ce message avec la France. Et qu'a fait Macron? C'est de critiquer Meloni en disant que chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés. Alors les moutons, c'est qui? C'est nous? Nous ne sommes pas vos moutons, cher Emmanuel Macron, premièrement. Et comment peut-il… Il a créé une véritable crise diplomatique avec l'Italie, puisqu'il a répondu donc violemment à ce message sympathique de Meloni, qui elle-même a répondu à Emmanuel Macron hier soir, et franchement, je peux la comprendre, en disant « Attention, les Français, vous avez gardé les brigades rouges qui avaient créé les années de plomb en Italie, le terroriste dans les années 70, et dans les années 80, vous avez accueilli les brigades rouges. » Donc soyez arrêtés avec tout ça. Donc, on voit que Macron arrive à créer une crise diplomatique avec l'Italie. Et cet homme est véritablement une plaie.
Alors, rappelons que Gérald Darmanin, ministre de Macron, avait lui aussi réussi à créer une crise avec les Italiens en expliquant que lui savait s'y prendre en matière d'immigration. Rappelons d'ailleurs au passage qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés clandestins que lorsque Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Et là aussi, Matteo Salvini avait été très surpris d'être pris à partie par Gérald Darmanin qui prétendait donner des leçons de gestion de l'immigration. Ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est qu'on a l'impression que l'Italie est sur une pente ascendante. Alors peut-être est-ce une illusion médiatique, mais je regarde par exemple la notation des agences financières. Elle dégrade la France, elle regrade, si j'ose dire, elle augmente la note de l'Italie. L'Italie est en train de réussir à nouer des partenariats industriels avec l'Allemagne au moment où la France est en train justement d'échouer, Macron régnante. Et est-ce que, peut-on penser que Emmanuel Macron s'attaque à l'Italie en partie parce qu'il est très énervé de la manière dont Giorgia Meloni se révèle peu à peu comme le nouvel homme fort de l'Europe à sa place?
C'est très possible, c'est-à-dire que Giorgia Meloni a un comportement à l'international qui est tout à fait sensé. Elle fait de la diplomatie à part entière, elle essaye de ne pas se fâcher avec Trump, mais de ne pas se fâcher avec les pays européens, elle essaye d'avoir des bonnes relations diplomatiques avec tout le monde, elle a un discours qui est tout à fait compréhensible et qui est stable. Et effectivement, elle a eu quelques succès en diplomatie, en affaires étrangères, ça c'est clair. Et les Italiens n'ont pas honte à l'international de Giorgia Meloni, contrairement à nous, Français, qui avons honte des paroles de Macron qui blessent que nous sommes, nous, Français. Donc, il y a une véritable réussite de Meloni à l'international. En revanche, là, il y a une forme de désinformation complète du système médiatique sur l'économie, sur l'Italie qui va bien. Déjà, sur les flux d'immigration, Meloni a arrêté les flux d'immigration illégaux en partie, hein, elle les a fait baisser de moitié. Par rapport au moment où elle est arrivée au pouvoir, mais il y a autant de flux d'immigration en Italie aujourd'hui, il y en a 400 000 à 500 000 par an, qu'il y en avait avant Meloni. Donc elle n'a rien fait de ce point de vue-là, c'est du marketing, elle dit même qu'elle a besoin de flux d'immigration, ce qui est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui était opposé aux flux d'immigration. En termes économiques aussi, effectivement, l'Italie, elle bénéficie, n'oublions pas, du plan de relance post-Covid européen, c'est-à-dire qu'il y a 180 milliards d'euros d'argent public européen, une partie qui est de l'argent français, qui se déverse en Italie. Donc, ça a un petit peu aidé l'Italie qui était en très grande difficulté. Il faut bien comprendre que le PIB de l'Italie de 2020, c'était le même, de 2021, pardon, c'était le même PIB qu'en 2001. Il n'y a pas eu de croissance en Italie pendant 20 ans. Les salaires des Italiens de 1992 sont les mêmes qu'en 1992 et aujourd'hui. Il n'y a pas eu de croissance, ils sont même légèrement inférieurs. Il y a eu zéro croissance du pouvoir d'achat en Italie, contrairement à ce qui s'est passé en France et dans les autres pays européens. Donc nos frères italiens, parce que je considère que c'est vraiment un pays frère de la France, l'Italie, sont extrêmement mal. Il faut voir que Meloni fait un très beau marketing de son action, mais déjà sur les flux d'immigration, elle les laisse rentrer, et sur l'économie, ça va très très mal. Je veux dire, depuis que Meloni arrive au pouvoir, l'industrie a baissé de 5% sa production industrielle. C'est un fait. Les salaires ont baissé de 3%. Les ventes de détail, donc la consommation, a baissé de 3%. Donc, en fait, c'est extrêmement mauvais, malgré le plan de relance dont bénéficie l'Italie. Donc, certes, il y a une petite amélioration, légère amélioration. La dette publique italienne, elle est au plafond. Et l'Italie, c'est un pays qui est en très grande difficulté. Les Français doivent le savoir. Et en beaucoup plus grande difficulté que la France. Parce que sur un indicateur de long terme, les morts représentent le double des naissances en Italie. Vous imaginez Richard de Sèze. C'est le double. En France, les courbes viennent juste de se croiser. On est au même niveau de mortalité que de naissances. En Italie, les naissances sont la moitié des morts. Donc, ce pays a d'énormes problèmes. Il faut que les Français comprennent que si la France est mal gérée, tous les grands pays européens ont de gros problèmes et l'Italie en premier.
Merci beaucoup Philippe Murer. Je rappelle que je suis en train de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur du mouvement politique citoyen. À 8h10, Alexis Poulain procurera à nous tous une grande joie avec sa chronique. Et ensuite, nous reprendrons cette discussion tous les trois. Vous avez raison de souligner à quel point l'Italie n'est pas un faux semblant, mais il y a la construction d'un récit évidemment de redressement qui est important. Ça fait plaisir, d'autant plus que Giorgia Meloni est quand même plus à droite qu'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi une espèce de faux semblant de l'état de la France. On a l'impression, et elle est juste, que ce pays est extrêmement mal géré, mais au bout du compte, la France ne sort pas si mal, et c'est d'ailleurs d'autant plus amer, car on se dit qu'avec autant de fautes que le pays soit quand même encore en bon état, que se passerait-il si jamais on était bien dirigé?
Vous avez tout à fait raison, la France ne s'en sort pas si mal, mais c'est grâce aux Français qui se battent pour leur pays, pour leur entreprise, et certainement pas à cause de Macron qui fait à peu près toutes les fautes. parce que Macron, par exemple, a voulu réindustrialiser le pays. C'était un de ses grands projets depuis 2017. Or, la France a vu sa production industrielle baisser de 3%, malgré tout l'argent public qui a été déversé pour aider l'industrie française. Donc, on voit que c'est un échec complet. On a un échec aussi par les faillites d'entreprises qui sont de plus en plus importantes, d'entreprises emblématiques. On a les aciéries de Bonpertuis, par exemple, qui ont tenu depuis François Ier, qui ont subi la révolution, qui ont réussi à survivre et qui là sont mortes, ont fait faillite l'année dernière parce que les prix de l'énergie sont beaucoup trop chers. On a eu les faillites emblématiques de Branque, de Novasco dans les acier spéciaux. Donc, on a des faillites un peu partout dans des PME structurantes, industrielles. Et tout ça, ça vient après Alcatel qui est parti, qui est devenu un nain en France, Technip, Lafarge, Alstom. Macron a tout trahi. Macron a laissé partir les grandes entreprises et maintenant il laisse faire faillite les petites entreprises. Il faut dire que cet homme a aucune fibre patriotique et son bilan au niveau économique est absolument une catastrophe. Vous savez ce que j'ai lu hier? J'ai lu que le scorbut revient en France. C'était une maladie qui était disparue depuis le Moyen Âge. Et en fait, comme les gens sont extrêmement mal nourris, sont extrêmement appauvris, une partie de la population, eh bien, on a autour de 1000 cas de scorbut par an. Parce que les Français n'ont pas de vitamine C. C'est des gens qui ne mangent que des pâtes, que du riz, qui n'ont même pas les moyens de s'acheter une orange de temps en temps. Voilà le niveau d'appauvrissement auquel Macron a conduit la France.
Ça laisse absolument sans voix. Pour moi, le scorbut, la dernière fois que j'avais lu le mot, c'était dans les romans de Jules Verne, genre un hivernage dans les glaces ou dans les romans de Jack London. Et ben non, grâce à Macron, le scorbut refait partie des mots du vocabulaire actif politique. On est, merci Philippe Muret, on est absolument saisi. Cette catastrophe macroniste, il nous reste juste 3 minutes pour en parler, c'est vraiment l'idée que la France doit être perpétuellement sacrifiée à l'Europe et que la souveraineté européenne est la seule planche de salut française.
C'est une erreur de faire cela selon Macron, mais de toute manière, l'Union européenne, que vous le vouliez ou non, elle a pris tous les pouvoirs. Elle a pris le pouvoir sur le commerce, elle a pris le pouvoir sur la monnaie, elle a pris le pouvoir sur les flux d'immigration, sur les frontières, et elle est en train de prendre le pouvoir sur la santé et la défense. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Macron, effectivement, est très très mauvais économiquement. Mais les idiots, ce sont l'Union européenne d'abord et les européistes qui les suivent. C'est-à-dire que l'Union européenne, imaginez, elle a voulu faire du libre-échange de l'industrie européenne avec tous les pays à bas salaire, à bas coût. Évidemment que ça posait un problème avec l'industrie européenne qui a perdu, qui s'est un peu affaissée parce que c'est une concurrence frontale et une concurrence à bas coût. Mais en plus, l'Union européenne y a rajouté l'énergie très chère avec les sanctions sur le gaz russe, mais aussi le marché européen d'électricité qui fait que les prix en France sont le double de ce qu'ils devraient être. L'Union européenne a mis en place des normes écologiques, des normes complexes dans tous les domaines qui sont extrêmement coûteuses pour l'industrie. Et troisième point, l'Union européenne a laissé l'euro se renchérir par rapport à toutes les monnaies mondiales, donc ce qui fait que ça fait un coût pour les exportations extrêmement élevé. Eh bien, la conclusion, c'est qu'évidemment, vous mettez l'industrie européenne en concurrence avec tous les pays à bas coût et vous faites augmenter ses coûts. Eh bien, évidemment, l'industrie européenne est en train de s'effondrer. On a 23% de baisse de l'industrie allemande, la plus puissante d'Europe, depuis 2017. Vous voyez, donc ce sont véritablement des idiots, et on le voit sur des faits anecdotiques. Quand l'Allemagne était leader mondial sur les panneaux solaires en 2013, qu'a fait l'Union européenne? Elle n'a même pas mis de droits de douane par rapport à la Chine, aux panneaux solaires chinois, pour protéger les Allemands quand les Chinois se sont mis à faire des subventions massives au solaire. Et en fait, il n'y a plus un leader sur les panneaux solaires en Europe. Les Allemands se sont fait balayer. La voiture électrique, c'est le même problème aujourd'hui. Les Chinois sont en train de la dominer. Que font les États-Unis? Ils mettent des droits de douane de 100%. Il n'y a pas une voiture électrique chinoise qui débarque aux États-Unis. Et les constructeurs automobiles américains se portent bien. Que fait l'Union européenne? Elle met des droits de douane tellement faibles qu'on est envahi par les voitures chinoises, 700 000 voitures chinoises, ce qui seront en train de détruire le cœur de l'industrie automobile et donc le cœur de l'industrie européenne. Voilà, voilà la folie de l'Union européenne qui prend toujours les mêmes mauvaises décisions et qui, de toute manière, est complètement à contresens dans un monde en pleine démondialisation, alors qu'elle veut encore la mondialisation économique.
Merci beaucoup Philippe Murer. Écoutons Alexis Poulain qui a certainement des choses à dire sur la question et à tout à l'heure à 8h.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, on parlait avec Philippe Murer de l'Union européenne, on parlait de la catastrophe absolue que cela représente, mais peut-être avez-vous un autre sujet ce matin ?
Bah écoutez, bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Je voulais peut-être parler d'un parallèle entre l'effondrement de l'image de la monarchie en Grande-Bretagne avec l'arrestation du prince Andrew, des suites de l'affaire Epstein, et l'effondrement du Front républicain en France suite à l'arrestation des membres de la Jeune Garde hein, lors du meurtre du jeune Quentin de Hanck à Lyon. Et j'y vois vraiment dans les deux la fin d'une époque pour... deux choses. D'abord, pour la monarchie britannique, on sait que le prince Andrew a été longtemps couvé par sa mère, hein, c'était le fils préféré, et les Anglais ont fermé les yeux sur les déboires de ce prince qui était connu quand même pour ses frasques et son amour de l'argent. Et le fait que même le roi d'Angleterre n'ait pas pu protéger son frère alors que il y a de ça quelques mois avant la mort de la reine, hein, il avait suffi d'un chèque de 12 millions d'euros pour faire taire une plaignante, hein, comme les appelle Rudi Reichstag, c'est-à-dire une victime du réseau pédocriminel de Jeffrey Epstein, ça en dit long sur un changement quand même de braquet en Grande-Bretagne. Et puis en France, eh ben, on voit que le Front républicain qui faisait les beaux jours de tous les partis honorables est en train de craquer totalement. On voit Gabriel Attal qui a bien du mal à se positionner puisqu'il avait appelé à voter hein, pour la France insoumise lors des législatives suite à la dissolution. Et bien il essaye là maintenant de se redonner une sorte de virginité pour dire ah non attendez on va revoir tout ça. Le Front républicain n'existe plus. Maintenant il y a un parti centriste et puis deux partis à abattre, la France insoumise et le Rassemblement national, ce qui va beaucoup changer les choses, sans doute, dans les élections à venir, avec une cornérisation, et vous savez, cette montée aux extrêmes qu'explique hein, la centrifugeuse centriste, en l'occurrence, qui fait que les électeurs de la France insoumise ne vont pas arrêter de voter France Insoumise suite à ce qui s'est passé. En revanche, cette cornérisation risque de rendre difficile la survie du Parti Socialiste qui comptait quand même sur des alliances de circonstances pour garder des sièges. Et on voit bien d'ailleurs l'amour de ce Parti Socialiste pour les sièges, notamment à l'Assemblée nationale, puisqu'ils n'ont pas voté les censures qu'ils auraient pu contre le gouvernement Macron, qui est le gouvernement, en fait, l'œil de Bruxelles, hein, puisque si, pour ramener les wagons à l'Union européenne, Emmanuel Macron n'est pas un président de la République française, mais est simplement le responsable de la région France au sein de l'ensemble Union européenne. Voilà, donc c'était un peu... mes réflexions de ce matin quand j'ai vu ce qui s'était passé en Grande-Bretagne pour relier les deux. Et puis, il y a cette vieille prédiction de plus de 200 ans qui explique que peut-être la révolution reviendra en Europe, mais elle commencera par une révolution en Grande-Bretagne et puis peut-être elle viendra à la France. Alors, est-ce que les Anglais vont en avoir marre d'une famille royale dévoyée, d'un Premier ministre Keir Starmer qui est aussi peu populaire que Macron, voire moins, et de politiques qui sont encore une fois antinationales et contre le peuple britannique? On voit bien que ça chauffe quand même en Grande-Bretagne. Il y a eu d'abord l'affaire des gangs pakistanais hein, qui, là aussi, faisaient de la traite de mineurs britanniques. Il y a eu ces arrestations nombreuses hein, de citoyens britanniques simplement parce qu'ils ont été outrés de la façon dont ont été traités ces gangs pakistanais pour ne pas faire de vagues, comme d'habitude. Et pire encore, après l'assassinat de trois fillettes dans une école, il a suffi que la colère explose pour que les gens se fassent arrêter, simplement parce qu'ils avaient dit « ça suffit ». Je pense que les Anglais sont au bord, peut-être, d'une grande révolution, et ils ne le savent peut-être pas.
Alors, ce qui est remarquable, c'est que les Anglais, en fait, ont beaucoup plus l'habitude de la Révolution que les Français. On se gargarise avec la Révolution française, qui a effectivement été un tel déchaînement sanglant que ça a terrorisé l'ensemble de la France et le reste de l'Europe. Mais les Anglais, régulièrement, en fait, se rebellent contre le pouvoir royal, qui effectivement se comporte juste comme un fils de chien vis-à-vis de son propre peuple. Et ils ont, eux, l'habitude, tous les 100 ans, d'une véritable révolte. Les actuels dirigeants de l'Angleterre ont l'air d'oublier qu'il y a une véritable tradition en fait populaire de pouvoir du peuple contre le pouvoir central.
Ouais, je crois qu'ils l'oublient totalement parce qu'ils sont pris dans cette hubris de cette équipe globaliste du camp Soros, du World Economic Forum, enfin Keir Starmer tout comme son prédécesseur Rishi Sunak, tout comme sont des young leaders. Je pense qu'ils sont totalement aveugles sur l'état des populations, l'état de colère et de mobilisation possible. Et ils pensent que les lois de censure vont suffire hein, pour garder le pouvoir d'une certaine façon. Exactement comme Emmanuel Macron. D'ailleurs, vous voyez que partout en Europe, hein, ces leaders qui sont totalement désavoués dans les sondages et dans les faits par leur politique calamiteuse ne tiennent plus qu'à la censure. Il n'y a pas de bilan à défendre. Leur bilan est calamiteux. Il n'y a pas de projet. C'est un projet qui est simplement un projet de déclassement total et de guerre éventuellement. Donc, à part faire peur aux populations, ils n'ont aucun projet heureux à proposer. Et la seule réponse qu'ils ont, c'est effectivement la censure. Or, ça ne peut pas tenir. Et c'est clair que les Anglais, on a vu hein, la force d'entraînement qu'a eu Tommy Robinson, par exemple, hein, sur cette question des gangs pakistanais. Il y a eu des grandes marches en Grande-Bretagne. C'est assez rare hein, de voir les grandes manifestations qu'il y a pu avoir avec le drapeau de Saint-Georges et l'Union Jack qui étaient dans les rues. Tout ça, avec les nombreuses arrestations de sujets britanniques de la couronne, parce qu'ils ont osé dire sur Facebook ou sur X qu'ils en avaient ras-le-bol, ça ne peut pas durer. Et je pense qu'effectivement, il y a un déni de réel de la part de nos dirigeants, entre guillemets, qui fait que l'ère des révolutions n'est peut-être pas si loin, en réalité, à cause du ras-le-bol populaire. Et ce n'est pas la censure qui l'empêchera.
Alors, je voudrais quand même rajouter à ce tableau très juste que vous décrivez d'une révolte populaire un autre élément pour montrer l'aveuglement de ceux qui nous dirigent, toujours en Angleterre. Xavier Van Lier en parlait la semaine dernière. Donc, le ministère, cette semaine, il nous parlait du ministère de la Santé qui expliquait qu'il ne fallait pas rejeter les mariages consanguins, notamment entre cousins germains, pour éviter de faire en sorte que les Pakistanais ne soient pas contents. Il mettait même en avant les mérites des mariages consanguins en expliquant que ça renforçait les liens familiaux et donc la solidarité familiale. On va laisser le ministère de la Santé dire ça. Mais la semaine précédente, on avait droit à quelque chose d'encore plus fascinant. C'est la manière dont le gouvernement britannique a fait un plan pour faire en sorte que les campagnes anglaises soient moins blanches, plus inclusives, et en mettant en avant notamment le fait qu'il est sans doute nécessaire de changer une partie des coutumes du peuple anglais, comme par exemple de laisser les chiens en liberté, car de nouveaux arrivants ont un problème avec les chiens, ou sans doute de faire en sorte d'avoir un rapport à l'alcool différent dans les pubs. Donc on est, il y a vraiment quelque chose de fascinant dans la manière dont on nous explique qu'il faut absolument changer le peuple. Et donc il s'agit moins de remplacement que de dépossession. Vous aviez des coutumes, on va vous les arracher, parce qu'il faut absolument que la campagne anglaise, que le Somerset et le Sussex deviennent des places accueillantes, des endroits accueillants pour l'ensemble de ceux qui n'y sont pas nés et qui pourraient peut-être être légèrement choqués de coutumes qui ne sont pas absolument pakistanaises, indiennes ou de je ne sais quel membre épars de l'ancien empire britannique.
Ouais. Alors c'est vrai que vous mettez là en lien une information importante, c'est l'ancien empire britannique, le Commonwealth, hein, qui fait qu'il y a quand même eu toujours en Grande-Bretagne cette idée de communauté très présente, hein, le fait de dire qu'on doit être très respectueux des cultures et chacun vit un peu chez soi et il faut faire de la place pour tout le monde. Ça c'est un peu la nouvelle donne du New Labour, hein. Ça c'est Tony Blair qui avait amené ça avec Great Britain, la campagne de promotion de la nouvelle Great Britain. Et franchement, je pense que ça atteint ses limites. Le retentissement des gangs pakistanais, cette affaire-là, on est qu'au début, en fait, je pense, du scandale et du choc que ça a provoqué au sein des populations britanniques, à savoir qu'ils ont très bien compris qu'on les prenait pour des idiots et qu'on a protégé des criminels qui méritaient la prison à perpétuité, tout simplement pour, soi-disant, entretenir le vivre ensemble. À un moment, il faut arrêter les conneries, pour parler crûment. Mais
pour parler comme Macron, en fait.
Oui, aussi.
Oh. On y reviendra.
Stop the bullshit, free speech, voilà. Plus, quand même, les traditions... d'une démocratie libérale qui est un des berceaux de la pensée démocratique, la Grande-Bretagne, qui est en train de devenir un pays autoritaire comme la France. Enfin, y a une dérive totale des anciennes nations européennes sous l'égide de ces young leaders qui doit s'arrêter. C'est pas une question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend, c'est comment on arrête cette dérive, parce que les pièces du puzzle pour mettre en place un État totalitaire de technosurveillance sont en train de se mettre en place, et je ne vois que très peu de responsables dire stop. Or, les peuples sont contre, et ça, c'est une constante. Donc, à un moment... Soit ils y arrivent, et alors l'avenir sera extrêmement sombre, soit il y a un réveil populaire qui peut arriver avant la censure, parce que c'est une course de vitesse dorénavant, et cette façon de se réveiller, elle va passer forcément par des mobilisations de masse, comme on a vu en Grande-Bretagne à l'appel de Tommy Robinson. J'imagine qu'on aura la même chose dans les autres pays européens. Si on n'a pas ça, je pense que ce sera très difficile d'arrêter la courbe de déclassement actuel.
Merci beaucoup Alexis Poulain. Je rappelle que juste après votre chronique, nous reprendrons le débat avec Philippe Murer et que nous aussi, nous avons besoin d'argent pour éviter le déclassement.
Absolument, cher Richard, vous m'avez pris de court, pourtant il est 8h. Il faut aider Radio Courtoisie, il faut la soutenir, il faut lui permettre de garder son indépendance totale sans avoir recours aux subventions ou à la publicité. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous pouvez aller dès maintenant sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr pour faire votre don en ligne. Un grand merci d'avance.
Richard. Et donc, tout de suite, le face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors, je voudrais commencer ce face-à-face entre, sanglant bien sûr, entre deux personnes que tout oppose, Alexis Poulain et Philippe Murer, par rappeler les forts propos d'Emmanuel Macron en matière de liberté de parole. Et donc, c'est ce qu'il a prononcé en Inde, à New Delhi, il y a quelques jours.
Because, I mean, free speech is a pure bullshit if nobody knows... How you are guided through this so-called free speech, especially when it's to be guided from one hated speech to another hated speech. I just want to have a transparent road through these different speeches, and I want, by the way, to have a sort of public order.
Voilà. Et donc je ne sais même pas si un élève de sixième ose parler anglais avec un accent pareil. Et évidemment, je n'imagine même pas la manière dont Emmanuel Macron se rend compte à quel point il est ridicule en prétendant parler anglais avec un accent pareil. Et surtout en parlant anglais au lieu de parler français, partout où il est reçu, non pas en tant que fonctionnaire capable de baragouiner, mais en tant que président de la République française. Philippe Murer, Alexis Poulain et surtout Philippe Murer dans un premier temps. Donc, que pensez-vous de la manière dont Emmanuel Macron nous dit littéralement, c'est la meilleure des traductions possibles, et je m'en excuse auprès des auditeurs de Radio Courtoisie, que la liberté d'expression, c'est une pure connerie.
Ah bah, tout simplement, Macron, là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec Alexis Poulain. Macron, depuis les Gilets jaunes, depuis 2019, demande la fin de la liberté d'expression. Ça commençait par pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, donc toutes les personnes qui sont fonctionnaires ou qui sont des postes exposés, les millions de Français ne pourront plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la liberté d'expression, c'est n'importe quoi, mais il y a une semaine, c'était les réseaux sociaux pour les jeunes, on va faire en sorte que tout le monde doive s'identifier avec une identité numérique sur les réseaux sociaux, donc pour essayer d'empêcher les Français de parler, parce que faire taire... C'est tout simplement faire taire le peuple français que veut Macron, en disant la liberté d'expression, non, les réseaux sociaux, non. Et parce que leur bilan, effectivement, est complètement catastrophique à ces young leaders, que ce soit Macron, que ce soit Merz, que ce soit Kirchheimer en Angleterre, et donc la seule chose qui leur reste, c'est de faire taire leur peuple pour éviter d'être renversé. Et je voulais juste rajouter un petit point et réagir sur ce qu'avait dit Alexis Poulain sur le fait qu'il y a eu une révolution. Que la révolution nous sauvera. Moi, je ne pense pas du tout ça, Alexis, pour une raison simple. Certes, on peut avoir une grande manifestation comme à Londres et qui était très intéressante, de Tommy Robinson avec 1 million d'Anglais dans les rues, mais on ne peut pas prendre le pouvoir par la révolution aujourd'hui. Ah, à cause de quoi? C'est que les Français n'iront pas s'affronter aux centaures, c'est-à-dire aux 100 chars de la gendarmerie blindés qui sont capables de tirer des balles réelles, quoi, et aussi de mettre de la lacrymogène sur 1 km². Il y a les drones aussi, il y a les fusils d'assaut, il y a toute la préparation des forces de l'ordre qui fait, pour moi, il n'y aura pas de révolution. Les Français l'ont compris, ils n'ont plus envie de redescendre dans la rue depuis les Gilets jaunes, quand ils ont vu avec quelle violence ils se sont fait taper dessus. En revanche, il y a une révolution en Angleterre dont on oublie souvent de parler. C'est Nigel Farage, le héros du Brexit, en fait, qui est passé de 3% dans les sondages il y a, avec son parti Reform UK il y a 2 ans, et qui maintenant est à 33-34%. C'est-à-dire que Nigel Farage, si les élections ont lieu demain en Angleterre, aurait une majorité absolue très confortable de siège, serait le nouveau Premier ministre britannique, et que les conservateurs et les travaillistes auraient à peine 80 sièges ou 50 sièges. Donc ça veut dire que là, on a quelque chose qui se passe, et la révolution, pour moi, elle se fera par les urnes. Alors les gens me disent, oui, mais ils vont tricher. Ah ouais, mais là, s'ils trichent, par exemple, en Angleterre, Nigel Farage est largement en tête, et qu'il triche aux élections, là, la révolution, elle se fera dans la rue, et il n'y aura aucun policier, aucun gendarme, aucune force armée pour mater un peuple qui vient de se faire voler ses élections. Voilà comment je vois les choses à ce niveau-là.
Alexis Poulain. Je suis d'accord. Enfin, moi, quand je parle de révolution, je ne parle pas de grand soir. Hein. Je suis assez d'accord sur le constat. Aujourd'hui, aucun peuple n'est organisé en comité révolutionnaire avec les métiers d'armes, avec une stratégie de prise du pouvoir. Ce n'est pas le cas. En revanche, effectivement, des grandes manifestations populaires qui vont pousser des partis dégagistes, des vrais, et pas l'escroquerie en marche d'Emmanuel Macron qui vantait la société civile, ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut marcher. Parce que ce qu'on voit, c'est quand même que ces gens-là, Emmanuel Macron et ses amis de l'équipe d'en face verrouillent tout sur les nominations, sur les lois européennes qui permettent de rebondir sur des lois nationales. En fait, ils sont en train de créer les conditions de régime autoritaire sous le prétexte de dire que c'est une démocratie et qu'il faut protéger la démocratie des discours de haine. On comprend très bien hein, que ce qui est à la manœuvre, c'est simplement la fin pure et simple du free speech, comme il le dit d'ailleurs, de la liberté d'expression, mais donc du débat démocratique, puisqu'il y a des choses qui sont interdites à la parole, des gens qui sont interdits de parler et des partis interdits de concourir. Donc le jeu est pipé et c'est bien là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, en Grande-Bretagne, on voit que Reform UK est loin devant, mais il n'y a pas d'élection. Et Keir Starmer, contre toute attente, se maintient au pouvoir alors qu'il aurait dû démissionner suite au scandale Epstein et la nomination de Peter Mandelson, un proche du pédocriminel, ambassadeur aux États-Unis et plein d'autres chose en réalité. Mais Keir Starmer tient bon alors que tout le monde veut qu'il dégage, y compris au sein de son parti. Donc on a affaire à des institutions totalement dévoyées par des personnages qui n'ont rien d'homme d'État et des partis qui jouent un jeu pipé. Donc c'est compliqué, il faut un mix en fait de tous ces éléments. D'abord la prise de conscience, la guerre culturelle, elle est en train d'être gagnée, je pense, par les populistes, n'en déplaise aux progressistes, entre guillemets. Ça mettra du temps ensuite à infuser. Mais je ne crois pas, évidemment, au grand soir. Aujourd'hui, je vois personne s'organiser en comité révolutionnaire et je vois surtout pas les métiers d'armes rejoindre des émeutiers dans la rue.
Alors, Philippe Murer, à propos de comité révolutionnaire, par exemple, Juan Branco a lancé lui aussi une démarche collaborative avec ses ruches. Donc, on sent qu'il y a une offre alternative, comme on dirait dans les cabinets de consultants, une offre politique alternative qui est en train d'émerger. Vous-même, votre programme collaboratif avec votre parti, le Mouvement Politique Citoyen, Juan Branco avec la ruche. Donc, il y a en France une effervescence politique qui contraste avec la manière dont les vieux partis sont en train de s'accrocher aux structures vermoulue du pouvoir.
Tout à fait d'accord. Et effectivement, les médias, en fait, de masse, servent de barrière d'entrée à tous les partis politiques qui sont différents et qui sont portés par les Français. Par exemple, le mouvement souverainiste. Il y a eu 2 sondages qui ont été faits par des instituts de sondage mainstream en 2024. En fait, il y a 36% de Français qui veulent sortir de l'Union européenne.
Ouais.
C'est gigantesque. Alors même que ces idées n'ont absolument pas le droit à aucune expression dans les médias français. Vous parlez, vous dites Frexit dans un média français, vous êtes interdit d'antenne. Oui. C'est très clair. Et donc, on voit, aujourd'hui, avec le Mercosur qui a montré aux Français que l'Europe pouvait détruire l'agriculture française pour vendre quelques bagnoles allemandes, et la France pouvait être mise en minorité et ne rien pouvoir faire quand l'Europe veut faire le Mercosur, évidemment que c'est en train de grimper à 40 et même, je pense, 45% de souverainistes. Donc, voilà. Après, c'est à nous d'être intelligents pour renverser ce front médiatique, c'est-à-dire, par exemple, l'union des souverainistes. Quand on voit que Nigel Farage passe de 3% à 36%, on comprend bien que les souverainistes français, s'ils s'unissent, s'ils s'allient pour faire une campagne électorale commune et pour faire un parti commun qui rassemble tous les autres partis souverainistes, eh bien, nous pouvons aussi faire un carton aux élections et il peut y avoir un raz-de-marée souverainiste à un moment donné. Voilà. Donc, il faut avoir de l'espoir, il faut se battre, même si on a un système complètement bloqué, très énervant, et où tout démarre de façon, ça tient jusqu'au moment où le barrage casse. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Le barrage contre Farage a tenu jusqu'au moment où il a tout emporté. C'est ça qu'il faut bien retenir et conserver l'espoir.
Alexis Poulain, effectivement, soyons pleins d'espoir. En même temps, je le rappelais en tout début d'entretien, des membres du gouvernement, des membres de la Macronie expliquent qu'ils préfèrent quand même faire alliance avec LFI qu'avec le RN. Et on sent que tout ce qui est bloc central, y compris les LR, continue à présenter le RN comme étant une machine absolument diabolique. On se demande pourquoi, étant donné le comportement du RN qui est parfaitement républicain, une partie des idées du RN dont on cherche en vain à quel point elle serait extrémiste et à quel point aussi le RN porte l'expression en fait du rejet complet de l'immigration par les masses populaires françaises, de quelque bord que ce soit, puisque quand on regarde les sondages, il s'agit aussi bien du MoDem, de Horizon, du PS, de LFI, du RN. En fait, les électeurs refusent l'immigration. Ce sont les structures qui les imposent. Est-ce que avez-vous l'impression qu'il va y avoir néanmoins à nouveau un front républicain, même si les sondages disent qu'ils n'en veulent pas?
Oui, il y aura de toute façon des accords, là les municipales vont être un crash test, hein, mais il y aura des accords locaux qui vont donner la couleur de la suite. Merci. Évidemment, parce que les partis attendent des résultats des municipales, un test pour ensuite se lancer dans la course à la présidentielle de 2027. Donc je pense qu'il y a, les déclarations et puis derrière la tambouille. Et la tambouille, on voit qu'en ce moment, elle est particulièrement ragoûtante, avec le PS qui passe son temps à touiller et à essayer de surnager, ELV qui n'en finit pas de mourir dans un autoritarisme ridicule. Enfin, c'est surtout la gauche. Et la droite, en fait, pourquoi les partis de droite, alors toute la myriade, les miettes de la Macronie, qui sont tous le même parti, mais avec un nom différent, et les LR, veulent continuer de diaboliser le RN? Parce que s'ils arrêtent, le RN gagne toute la mise. En réalité, ils le savent très bien. D'ailleurs, Bardella l'avait expliqué, son objectif, c'était de faire du RN le RPR de Chirac. Donc, ils savent très bien quelle est la stratégie actuelle du Rassemblement national. Et si elle fonctionne, ça veut dire que ce soit les LR, Horizon et tous les autres, bah, ils ne servent plus à rien. Et comme la soupe est bonne, puisque payer avec nos impôts à des postes électifs, chacun veut y rester. La politique, elle, en souffre parce que j'en veux au RN pour ne pas avoir voté contre les lois de censure numérique et j'en veux au RN d'avoir abandonné sa ligne souverainiste. Voilà, c'est deux choses qui devraient aujourd'hui animer le débat public et le débat pour la présidentielle de 2027, et je salue Philippe Murer et son initiative. Or, les partis médiatiques, les partis du système, puisque le RN en est devenu un, ont totalement tous lâché cette question pourtant centrale de la place de l'Union européenne dans nos lois.
Et Philippe Murer, très rapidement, en une minute, une réaction à ça?
Alexis Poulain a raison. On est tombé dans la base politique, la politique politicienne absolument partout, même au RN qui prétend défendre la France sans vouloir sortir la France de l'Union européenne qui la transforme en région de l'Union européenne. Hein. Donc c'est plus un pays, c'est juste une région, une province qui n'a plus aucun pouvoir, une pauvre petite chose sans pouvoir. Moi, je pense que ce qui est très clair en politique, il faut toujours se battre pour les idées fortes auxquelles on croit, toujours être sincère. Vous voulez arrêter les flux d'immigration, bah, battez-vous pour arrêter les flux d'immigration. Ne vous battez pas contre les immigrés dans la rue, c'est absolument ridicule. Battez-vous pour l'arrêt des flux d'immigration, c'est-à-dire récupérer des frontières, récupérer tout notre droit pour pouvoir imposer un droit pour enlever, par exemple, le droit absolu à l'immigration familiale et toutes ces choses-là. Donc, soyons clairs en politique, battons-nous pour nos idées, et c'est ça qui finira à la fin par gagner la mise. Farage l'a montré en Angleterre, il s'est toujours battu pour ses idées avec force et avec constance, et d'un coup, ce parti est en train de devenir le premier parti d'Angleterre. Je pense que c'est un message d'espoir pour les Français, un message de sincérité pour les responsables politiques.
Merci beaucoup Philippe Meurer, merci beaucoup Alexis Poulain. Je cite une dépêche du ministère de l'Intérieur qui explique qu'il y a un dispositif extrêmement important qui sera mis en place pour sécuriser la marche à Lyon d'1,4 km. Et le ministre de l'Intérieur nous explique avec des tremblements dans la voix qu'on sent à travers les mots, il y aura des militants de l'ultra-droite. Il y aura surtout des antifascistes qui vont continuer à manifester pour empêcher les Lyonnais, les simples Lyonnais qui ne sont pas tous d'ultra-droite, de venir rendre hommage à Quentin. Espérons que le ministre de l'Intérieur saura prendre ses vraies responsabilités. Merci beaucoup, messieurs, et à très vite sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Et bien sûr, avec Alexandre de Galzan. Dans un instant, ce sera Pascal Pointu, et juste avant lui, Pierre Noizat. Mais tout de suite, le rappel des titres de l'actualité.
Alors que doit avoir lieu demain à 15h place Jean Jaurès à Lyon, une marche d'honneur, d'hommage pardon, à la mort de Quentin Derenque, lâchement tué par les Antifa il y a presque une semaine. Le maire écologiste Grégory Doucet a déclaré souhaiter que la préfecture interdise le rassemblement. Et puis arrêté hier matin, il a été relâché hier soir. L'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, a passé 12 heures en garde à vue pour manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle, soit directement l'affaire Epstein. Et puis, après la mort de Quentin, Giorgia Meloni a déploré une blessure pour toute l'Europe et exprimé sa solidarité pour les Français. Mais au lieu de la remercier poliment, voire même de ne rien dire, Emmanuel Macron s'est énervé en demandant à Giorgia Meloni d'arrêter de commenter ce qui se passe chez les autres, ajoutant que chacun reste chez soi, les boutons seront bien gardés. Enfin, je rappelle que nous célébrons en ce 20 février la bienheureuse Aimée et Sainte Chère.
Merci Alexandre.
Ligne droite.
Et pour ce grand entretien, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Noizat.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Alors, débattons-en avec Pierre Noizat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes polytechnicien. Je vous en prie, vous êtes polytechnicien, vous êtes le pionnier du Bitcoin en France, vous êtes candidat au municipal sur la liste de Sarah Knafo, et ça a un peu étonné tout le monde. Alors, effectivement, on vous a découvert il y a peu de temps, somme toute, à cause d'une agression, et on savait que vous étiez passionné de nouvelles technologies, qu'effectivement, vous aviez réussi à devenir l'un des premiers acteurs du Bitcoin en France. Qu'est-ce qui vous pousse à rejoindre Sarah Knafo?
Alors, plein de choses, mais effectivement, la question de la sécurité que vous évoquez en est une, mais pas seulement. Je pense que tous les problèmes sont liés en réalité, c'est-à-dire qu'on est dans un déclin économique qui a été amorcé je dirais au début des années 80, comme vous le savez, avec l'élection de Mitterrand, on peut même dire 60, quelque part dans les années 70, aussi avec la fin de l'étalon or, qui participe aussi de ce déclin économique et civilisationnel. Donc, quand j'ai vu la candidature de Sarah au municipal, en entrepreneur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit une opportunité en fait, hein, et qui l'exploite ou essaye de exécuter une vision à partir de cette opportunité. Donc, en l'occurrence, la candidature de Sarah était alors ce qu'on appelle aussi dans le langage d'innovation un signe noir, c'est-à-dire quelque chose d'inattendu et à la fois inattendu, important et disruptif. Donc, je pense que Sarah a un positionnement tout à fait particulier sur l'échiquier politique, c'est-à-dire que aujourd'hui elle représente quasiment l'intégralité de l'offre politique à droite. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en gros le gauchisme et le socialisme, le collectivisme, dirait Anne Rand, s'étend depuis LFI jusqu'à une bonne partie des LR, hein, les LR étant devenus des socialistes de droite. Il y a des exceptions chez les LR, heureusement, quelques-unes, comme Lisnard, Ciotti, Aurélie Assouline, qui a rejoint la liste de Sarah, d'ailleurs. Monsieur Sarfati aussi, qui a rejoint la liste de Sarah des LR. Mais globalement, on a une partie des LR et le parti de Sarah Knafo, Reconquête, qui ont une offre, qui proposent une offre politique de droite, c'est-à-dire où la liberté est quelque chose qui est compris et est proposé par le politique, ce qui est tout à fait nouveau, puisque on voit par ailleurs une régression de la liberté économique, en particulier chez les autres. Donc, quand elle a candidaté, j'ai tout de suite été séduit par ça, et aussi par, évidemment, son intelligence, ses qualités intellectuelles et morales, puisque j'ai eu l'occasion de la rencontrer, qui en font une personne, à mon avis, exceptionnelle. Donc, je pense que c'est une, là, pour le coup, une vraie chance que la France peut saisir. Je ne reprendrai pas l'expression « chance pour la France » que certains ont utilisé.
Il est peut-être temps de la faire basculer dans un autre registre, justement.
Voilà, je crois que c'est en train d'arriver avec Sarah. Donc voilà j'étais un peu long, mais voilà la raison profonde de ma candidature sur sa liste.
Alors, c'est une chance pour la France, dites-vous. On a l'impression que dans un premier temps, c'est surtout une chance pour Paris. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire que, bien sûr, Sarah Knafo est en train de réellement vouloir faire de Paris une ville heureuse, pour reprendre son slogan, mais que cette municipale parisienne est aussi un marchepied pour la conquête d'un pouvoir plus national ?
Alors, Sarah est jeune, évidemment. Hein, elle a l'âge, en gros, de ma fille, là, qui a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement dont vous avez parlé. Donc, elle a une longue carrière, je pense, devant elle. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui pourrait réussir, je pense, dans n'importe quel domaine. C'est certainement dans le privé. Si elle a choisi de s'engager en politique, c'est certainement pas la voie la plus lucrative. Et je sais qu'elle le fait par conviction. Mais en effet, Paris, c'est quand même évidemment une élection emblématique, les municipales 2026, juste avant évidemment la présidentielle 2027. Ça permettrait de poser un curseur sur la volonté des électeurs, surtout. Je ne sais pas, je pense que Sarah veut sincèrement être maire de Paris, et je le sais pour en avoir parlé avec elle, et j'espère vraiment que le 23 mars elle sera à la mairie, mais ça ne lui interdit pas évidemment de postuler à d'autres élections plus tard. Mais je pense que Paris est un enjeu très important pour notamment par rapport à son programme, qui prévoit 10 milliards d'économies sur un budget où règne aujourd'hui, avec Hidalgo et sa clique, une gabegie absolument invraisemblable. Donc elle va montrer qu'on peut baisser les dépenses d'une entité publique tout en augmentant le bonheur des Parisiens et la prospérité des Parisiens. Donc je pense que c'est une démonstration qui est très importante dans la perspective d'élections futures.
Augmenter le bonheur sans augmenter les impôts, effectivement, ce serait assez inédit en France.
En les baissant.
Et même en les baissant pour les Parisiens. On va revenir un tout petit peu sur le volet sécurité, puisque parmi les raisons qui vous font rejoindre Sarah Knafo dans cette aventure parisienne, il y a évidemment, on l'a rappelé, et vous l'avez évoqué vous-même lors de la tentative d'enlèvement sur votre fille, il y a ce que vous appelez la mexicanisation, de la France et de Paris. Il y a un véritable problème de sécurité intramuros.
Je pense qu'il suffit de se promener dans les rues pour le voir, que effectivement la situation se dégrade. Moi-même, je prends les transports en commun. Je suis parisien de naissance, donc j'ai pris les transports en commun de nombreuses fois, et j'ai été moi-même témoin d'agressions, par exemple, extrêmement violentes, hein, d'ailleurs. Donc on a un problème, c'est évident. Après, est-ce qu'il y a une volonté politique pour régler ce problème aujourd'hui ? À l'évidence, non. L'exemple le plus évident, c'est le fait que la police municipale n'est pas armée. Vous voyez, en 2026, avec les attentats qu'a connus Paris, avec la criminalité que peut connaître Paris, on a des policiers municipaux qui sont sans armes. Donc je pense que ça correspond tout à fait à l'idéologie en cours chez les collectivistes, c'est-à-dire de désarmer le citoyen, je dirais, moralement et physiquement, c'est-à-dire qu'il doit se poser en victime de tout ce qui lui arrive, et l'État viendra toujours à son secours. Il est de cette manière soumis à une autorité supérieure, n'est pas considéré comme un adulte, en fait. Donc c'est ça qui doit changer, Et le fait d'armer la police municipale, c'est évidemment un geste avec une portée symbolique forte aussi, qui montre la volonté politique qui anime Sarah et ses colistiers.
Quand vous dites que l'État doit venir au secours, pourvu effectivement que la personne ne se soit pas défendue, car si elle se défend, généralement elle se retrouve devant la justice accusée d'avoir lâchement attaqué son agresseur. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans ce qu'a dit Macron hier ou avant-hier à Giorgia Meloni, où il explique que chacun s'occupe de ses affaires et que les moutons seront bien gardés. Comme le disait Philippe Hurer tout à l'heure, on a l'impression que ce que nous dit Macron en creux, en filigrane, c'est que les Français sont des moutons et qu'il entend être leur berger.
Absolument, ce sont des moutons et des enfants, en fait, hein, pour lui. On infantilise le citoyen, on ne le croit pas responsable. Assez responsable pour qu'il ait le droit d'avoir, par exemple, une arme chez lui pour se défendre en cas de cambriolage. Encore moins, effectivement, le droit de se défendre. Donc ça, le droit de se défendre, en plus, c'est une régression, tout simplement, du droit de propriété, en réalité. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous n'avez plus le droit de chasser ou de tirer sur un cambrioleur qui potentiellement peut vous séquestrer, vous torturer et vous tuer. Donc vous êtes en état, à l'évidence, de légitime défense s'il s'agit d'un cambriolage, puisque vous ne savez pas, par définition, les intentions du cambrioleur. Donc vous êtes en état de légitime défense, du strict point de vue du droit. Mais la justice aujourd'hui, le gouvernement, ne veut pas de citoyens qui puissent se défendre. Il veut des citoyens désarmés, comme je disais, physiquement et moralement, parce que dans ce cas-là, effectivement, on peut continuer à les considérer comme des moutons qui vont à l'abattoir ou comme des enfants qu'il faut guider dans chaque aspect de leur vie. Comme vous le savez, ils sont jamais à court, les collectivistes, de conseils pour nous dire comment on doit vivre. À cet égard, j'aime bien citer le président de l'Argentine, Javier Milei, qui définit son positionnement politique comme la volonté de respecter le chemin de vie de chacun. Je trouve c'est une très belle phrase et ça définit exactement la droite, ce que doit être la droite, c'est respecter le chemin de vie de chacun, dans la mesure évidemment où ce chacun, on n'empiète pas sur le chemin des autres, mais en tout cas respecter ce chemin et non pas essayer de les accompagner sur un chemin décidé par d'autres à chaque pas, je dirais.
C'est presque la définition thomiste du bien commun, voilà, faire en sorte que chacun puisse exercer sa propre vertu. C'est un peu différent de Javier Milei, mais ça nous ramène à cette tradition. Il y a autre chose qui vous a séduit chez Sarah Knafo, c'est qu'on a l'impression que, contrairement à d'autres, elle comprend ce qui est en train de se passer d'un point de vue technologique. Vous dites, elle est la seule à comprendre les enjeux technologiques autour du Bitcoin, de l'intelligence artificielle et du logiciel libre comme outil de souveraineté et d'innovation. Ce logiciel libre, c'est quelque chose dont la France est assez avancée à l'INRIA. Beaucoup de gens travaillent sur le logiciel libre et pour le moment, l'État français a choisi soit de développer ses propres logiciels avec des solutions horriblement coûteuses et des échecs industriels absolument terribles dont on parle régulièrement, comme Louvois par exemple, soit au contraire de se vendre aux grands acteurs américains comme Microsoft. Parlez-nous un peu de Sarah Knafo, du logiciel libre et de l'intelligence artificielle.
Oui, alors Sarah Knafo, elle comprend très, très bien et très vite quand on lui explique des choses, même des choses compliquées. Donc ça aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça change. Ça fait à peu près 15 ans que je parle de Bitcoin à plein de gens et à quelques politiques. Et effectivement, Sarah, elle comprend très vite. Donc ça aide et c'est un signe, comme je le disais, de ses qualités intellectuelles exceptionnelles. Par ailleurs, le logiciel libre, comme vous le dites fort justement, c'est un de mes préconisations, je dirais. C'est plus une préconisation qu'autre chose à ce stade-là. On ne l'a pas écrit tel quel dans le programme, mais effectivement, c'est une volonté politique, là aussi, de libérer les utilisateurs, en particulier les fonctionnaires municipaux, puisqu'en l'occurrence, on parle d'élections municipales, de la surveillance, tout simplement, de d'entreprises américaines comme Microsoft, qui... on le sait, sont adossés aux renseignements américains et qui donc ont accès, quand vous utilisez leurs outils, à peu près tout ce que vous faites et tout ce que vous écrivez. Donc effectivement, je prends un exemple dans ma société, donc Paymium, qui est un exchange, une place de marché pour les crypto-monnaies. Nous utilisons pour la visioconférence un outil logiciel libre, auto-hébergé, et nous n'utilisons pas Microsoft Zoom ou Google Meet. Hein, c'est juste pour illustrer ce que ça veut dire concrètement. Et je pense que les visioconférences qui se font entre administrations, ou, avec des contenus confidentiels évidemment, hein, je parle de ministère de la Défense ou ministère de l'Intérieur ou autre, doivent évidemment s'appuyer sur des outils comme ça, qui sont des logiciels libres hébergés par les utilisateurs dans leur bureau, et qui ne dépendent pas donc d'un fournisseur, en particulier américain, dont on sait qu'ils vont espionner chaque mot. Une intelligence artificielle va aspirer tout ce qui se dit, etc. Donc ça, c'est y a un aspect sécurité informatique, déjà, dans le logiciel libre. Il y a un aspect souveraineté, au sens que dès lors, vous, comme disait Richard Stallman, qui est un des prophètes du logiciel libre dès les années 70, il disait si vous ne contrôlez pas le logiciel, c'est le logiciel qui vous contrôle. C'est exactement ça l'idée, si vous voulez, du logiciel libre. Autre exemple, c'est les systèmes de paiement, évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que l'État aujourd'hui ne se tourne pas aussi résolument vers le logiciel libre, c'est que Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est du logiciel libre, ça coûte zéro à installer et à utiliser, contrairement aux logiciels bancaires et aux logiciels de paiement qui sont là aussi encore pratiquement tous américains, et donc où vos transactions sont surveillées par des entités américaines et pas seulement Visa Mastercard. C'est pareil, un paiement en Bitcoin, c'est quelque chose que vous maîtrisez, qui n'est pas dépendant d'un fournisseur étranger. Donc le logiciel libre, ça peut toucher tous les aspects aujourd'hui dans une société intermédiée par le logiciel. Ça peut concerner à peu près tous les aspects de votre vie. Donc c'est un choix politique important et qui correspond tout à fait à l'esprit de la candidature, à mon avis, de Sarah Knafo, même si on n'a pas été dans le détail au niveau implémentation de quel logiciel serait libéré, je dirais, en premier. Mais on va certainement, en tout cas, aller dans cette direction. Je sais qu'elle a compris, en tout cas, les enjeux de souveraineté et de sécurité autour du logiciel libre.
Sarah Knafo se lance dans les municipales. Vous allez être tête de liste dans le 11e arrondissement de Paris. Vous avez rejoint Sarah Knafo alors que sa campagne était déjà lancée. Les contacts étaient déjà pris avant?
Oui, tout à fait. On avait déjà été en contact, notamment, comme vous l'avez souligné, à la suite de la tentative d'enlèvement donc, qui a touché ma famille, où j'avais été invité par vos confrères de BFM. Et donc, mon passage avait été remarqué par certaines personnes de l'entourage de Sarah Knafo. Donc,
je crois que tous les Français avaient été très surpris de vous entendre vous exprimer, car vous n'aviez pas du tout le discours victimaire habituel. Vous aviez l'air, au contraire, d'être très remonté contre les agresseurs et d'avoir des idées très précises sur la manière de les retrouver, de les châtier et de réorganiser un peu la façon dont ça marche en France.
Oui, en tout cas, j'ai exprimé mon inquiétude par rapport à la justice, ma confiance dans la police, mais mon inquiétude par rapport à la justice, en tout cas. Et ça effectivement, ça détonnait un peu par rapport à d'autres situations similaires. Et je pense que ça a surpris un peu, effectivement, le petit microcosme médiatique parisien, autour de BFM, en tout cas. Et donc, effectivement, je ne me suis pas posé en victime. J'aime bien la devise ne pas subir. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est une devise apocryphe du maréchal Foch ou autre, mais en tout cas, ne pas subir, c'est plutôt mon état d'esprit. Je ne suis pas décidé à subir. D'ailleurs, l'affaire n'est pas terminée, il n'y a pas eu de procès encore. Mais effectivement, je ne vais rien lâcher. Alors, j'observe que, sans révéler de secret, effectivement, il y a des exécutants qui sont des mineurs dans ces affaires d'enlèvement. Qui sont ce que j'appelle, moi, le dernier kilomètre du crime, parce qu'ils sont à l'abri de la fameuse excuse de minorité, qui est un véritable scandale. Évidemment, l'excuse de minorité n'a jamais été inventée au départ pour protéger ce genre d'individus. C'est plutôt pour des primo-délinquants sur des délits mineurs. Ça n'est en aucune manière applicable à quelqu'un qui commet des crimes de cette nature. Et surtout quand il s'agit de quelqu'un de 17 ans ou 16 ou 17 ans, donc qui n'est plus un enfant. Effectivement, j'ai quelques idées là-dessus, vous vous en doutez, et j'entends les faire entendre, en tout cas, parce que je crois qu'il y a pas mal de Français qui partagent mon point de vue.
Alors, être en campagne municipale, c'est aller à la rencontre des électeurs. Donc là, vous n'aviez pas forcément l'habitude, en tant que directeur de Paymium, donc cette société spécialisée dans les crypto-monnaies, d'aller sur les marchés. Et comment les habitants du 11e arrondissement accueillent-ils votre candidature et la manière dont vous faites campagne ?
Bah, vous avez raison de dire que je suis débutant en politique, ça c'est un fait. C'est un fait. Par contre, je suis surpris du coup de l'accueil très très chaleureux qu'on reçoit. Je dirais d'une bonne moitié des gens qu'on rencontre. Il y a clairement des gens qui nous disent voilà, je vote non, ça m'intéresse pas, je vote pas pour elle, etc. Mais on a une bonne moitié des gens, on s'aperçoit en tout cas qui reçoivent notre présence sur le terrain et la candidature de Sarah Knafaud de manière très positive. Donc, pour moi, c'était une interrogation. Je ne savais pas comment on serait reçu, effectivement, sur les marchés ou ailleurs dans la rue, quand on tracte. Je suis tout à fait étonné je ne suis pas étonné, mais en fait, je suis agréablement surpris. Il n'empêche qu'il y a quelques zones dans Paris, vous le savez, qui sont totalement livrées aux milices d'extrême gauche. Je devrais dire aux milices, parce qu'elles sont toutes d'extrême gauche, donc il n'y a pas d'autres milices, je n'ai pas besoin de préciser. Ce sont les miliciens donc, du régime, hein, parce qu'on est dans un régime, comme je vous disais, qui dérive vers le communisme depuis 50 ans. Donc là, on y est presque, hein, au bout de 50 ans. C'est ce que j'appelle, moi, le communisme par strangulation. Hein. Il y a eu en 1917 le communisme par la révolution. Et là, on s'enfonce dans le communisme par la strangulation, on étrangle les créateurs de richesses de manière à ce qu'ils ne représentent plus qu'une minorité du pays et sur laquelle va vivre tout le reste. Je crois qu'on est à un tiers aujourd'hui de créateurs de richesses par rapport à deux tiers de bénéficiaires nets de leur travail. C'était les derniers chiffres que j'ai pu voir, en tout cas. Donc, on y va. Et donc, comme tout régime communiste, on a une milice qui se met en place, on a la censure qui se met en place. Enfin, tous les signes d'un régime communiste commencent par apparaître dans leur réalité incontestable. Hein. Quand je le dis, les gens ont un sourire en coin, ils disent non, il exagère. Et puis, quand je commence à dérouler tous les signes qui caractérisent un régime totalitaire de gauche, on s'aperçoit qu'on coche beaucoup de cases. Hein. Et donc, en particulier, les milices qui rôdent, je dirais, dans certains arrondissements. Le 11e est à peu près encore exempt de ça, mais il faut rester très vigilant. Je suis sûr qu'ils n'hésiteront pas une seconde à venir intimider les opposants de ce régime que je qualifierais de presque communiste.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Noisa pour ce témoignage et pour votre engagement. Et évidemment, bonne chance pour En Mars.
Merci beaucoup.